Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir après ces grandes vacances. Et tout d'abord, je voulais vous souhaiter, en mon nom et au nom de toute l'équipe, une belle et heureuse année 2020. Et pour débuter cette année, nous avons le plaisir, je crois le plaisir, n'est-ce pas, Alexandre, qui a eu un train d'être ici parmi nous. Je voulais le remercier très chaleureusement parce que je sais que demain, il doit être à Paris très tôt parce qu'il a quelque chose de très important à faire comme d'habitude. C'est quelqu'un de très occupé et je voulais vraiment le remercier de répondre chaque année à ma demande. Et, n'est-ce pas ? Et je sais que l'année prochaine, notez sur vos agendas, le... ben oui, il faut prendre rendez-vous un an à l'avance, hein. Le 8 janvier 2021, il sera parmi nous. Je ne connais pas encore le sujet, je lui demanderai plus tard. Alors, je rappelle simplement qu'Alexandre Galli est docteur en histoire de l'art, qu'il est professeur d'histoire de l'art moderne à l'université Paris IV, Sorbonne. Depuis plusieurs années, il se bat pour la défense du patrimoine, la mise en valeur du patrimoine, et il vient d'être nommé directeur du projet de création du musée du Grand Siècle, premier grand musée en France dédié à l'art du XVIIe siècle, avec des peintures, des dessins, un centre de recherche qui se trouvera dans la caserne Sully à Saint-Cloud, aux portes de Paris. Donc il faudra tous aller au musée du Grand Siècle quand il sera ouvert prochainement.
5 ans.
Dans 5 ans, voilà. C'est tout prêt. Il a 5 ans à faire, beaucoup de travail. Monsieur Galli est écrivain, vous le savez. Il a publié Versailles, la fabrique d'un chef-d'œuvre, le Louvre, les Tuileries, les hôtels particuliers parisiens du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, dessiné pour bâtir le métier d'architecte au XVIIe siècle, paru aux éditions Le Passage. Pour l'heure, Monsieur Galli est là pour une conférence tant attendue, puisqu'il s'agit, je vous rappelle le titre, Notre-Dame de Paris, la cathédrale de France. Merci, cher Alexandre, d'être ici. Nous en sommes très heureux. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup, chère Marie-Claire, une fois de plus pour cette invitation, pour ces mots chaleureux d'introduction. Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir à Bordeaux, de retrouver cette superbe ville, ce public toujours fidèle et intéressé par tous les sujets année après année. C'est un rituel que vous avez créé et qui me touche beaucoup parce que, comme tous les gens conservateurs, j'aime les rituels et les répétitions des choses qui sont positives. Vous avez vu que sur mon titre, il y a un lapsus, 10 janvier 2019. Peut-être qu'au fond, je souhaitais que nous ne soyons pas en 2020, mais que nous soyons avant le 15 avril 2019, c'est-à-dire avant le jour de l'incendie dont je vais évidemment parler tout à l'heure. Mais c'était peut-être un lapsus, mais en tout cas, il est évident que nous sommes bien en 2020. Et donc, à mon tour, je vous souhaite le meilleur pour vous et les vôtres pour cette nouvelle année. Et je remercie le gouvernement et la CGT de m'avoir laissé venir, puisque malgré le mélange assez détonnant de leurs stupidités respectives, j'ai trouvé un train qui fonctionnait et donc je suis parmi vous après avoir vu la SNCF travailler. Et donc c'est une émotion assez forte aussi pour moi. Je vais vous parler aujourd'hui de Notre-Dame de Paris en essayant de retrouver quelque chose de l'émotion qui a étreint les Parisiens, les Français, les Européens, les Occidentaux et peut-être même encore plus largement le monde par la force des réseaux sociaux, des téléphones portables qui filment en direct toute forme d'événements et qui font de nous des voyeurs à l'échelle planétaire. Et de cette émotion est sorti beaucoup de choses, positives et négatives, donc on va les balayer. Mais d'abord, évidemment, je voulais commencer par des images que nous avons tous en tête, des images qui sont des images touristiques Et même s'il y a une signification profonde dans l'histoire de Notre-Dame de Paris, nous sommes obligés de reconnaître qu'elle est d'abord peut-être pour les 14 millions de gens qui la visitent chaque année, avec un timing qui correspond à peu près à 3-4 minutes à l'intérieur, c'est-à-dire on attend longtemps dehors, on rentre, on fait le tour et on ressort. Voilà. Donc c'est une image, et cette image, c'est un 3 étoiles sur les guides qu'il faut avoir fait, comme il faut aller à la Tour Eiffel, il faut aller au Sacré-Cœur, et il faut aller au grand monument historique principal de la région parisienne, qui est Disneyland Paris. Voilà. Donc cette cathédrale, la voilà. Si vous avez de bons yeux, la flèche est bien là. Elle est tout à fait sur le côté de la tour sud, par le biais oblique de la photographie, avec cette lumière du soir, puisque c'est une des grandes cathédrales orientées, bien sûr, comme selon la tradition médiévale, avec la façade au couchant, et ce bouquet d'arbres disposé de manière un peu romantique, mais en réalité très tardif du 19e siècle. Si vous êtes passé dans ces délicieux petits bateaux mouches, vous avez vu 100 fois cette image avec la silhouette latérale qui rappelle évidemment le caractère très particulier de Notre-Dame, la seule cathédrale médiévale du monde qui soit construite dans une île et dont on puisse cerner comme ça de longtemps les faces latérales et les chevets, alors même que la plupart des cathédrales, normalement, sont plutôt prises dans un tissu urbain assez dense, plus ou moins amélioré par le 19e siècle. Vous en savez quelque chose ici à Bordeaux, avec la cathédrale qui a été dégagée sur le côté. Mais une vision donc à la fois ancienne et moderne de cette cathédrale. Et bien sûr, la célèbre vue qui est devenue une vue iconique de l'histoire de l'architecture française et de Paris, avec la grande flèche de Viollet-le-Duc qui est hors d'échelle pour la cathédrale, mais qui n'est pas à l'échelle du monument, mais plutôt de la ville transformée en capitale par Napoléon III et son préfet. Et ces arbres qui succèdent au jardin de l'archevêque du temps où l'archevêché avait son siège à côté, à l'ombre de la cathédrale, selon la règle, règle qui a été brisée à Paris par un sac très célèbre en 1831, donc au début du règne de Louis-Philippe. Voilà ces trois images touristiques pour commencer, pour nous remettre face à ce monument, 100 fois vu, 100 fois connu, et pourtant à chaque fois toujours émouvant à revoir si on pose son regard, si on laisse ses yeux et son émotion s'organiser. Alors, la cathédrale de la France, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en réalité, parce que Paris est la capitale de la monarchie capétienne, d'où est sortie cette dynastie qui avait combattu au moment des invasions vikings et que les Parisiens vont choisir, la noblesse française va choisir contre l'empereur. Ces Capétiens ayant fait de Paris leur capitale, la cathédrale, c'est-à-dire le siège de l'évêque, celui du diocèse, elle est aussi évidemment immanquablement une cathédrale avec une dimension politique supplémentaire que les autres cathédrales ne peuvent pas revendiquer. On pense bien sûr à deux édifices religieux majeurs quand on pense à la monarchie française et à l'alliance intime du trône et de l'autel. C'est d'une part évidemment la basilique Saint-Denis, qui n'est pas une cathédrale, elle l'est devenue aujourd'hui au XXe siècle, où les rois se faisaient enterrer. Et on songe bien sûr à la cathédrale de Reims, qui elle est bien une cathédrale, elle l'est toujours, et qui est le lieu du sacre. Mais la cathédrale Notre-Dame, qui n'est ni l'un ni l'autre et qui n'a pas officiellement de rôle précis par rapport à la monarchie, est pourtant intimement liée à l'État, à sa construction et à la dimension sacrée qu'il peut vouloir revêtir à travers les âges. Et c'est pourquoi je commence bien sûr par deux figures de chefs d'État, qui ne sont pas des figures peut-être que les touristes qui pleuraient le soir du 15 avril ont tout de suite convoquées dans leur mémoire. C'est d'abord à gauche le roi Louis VII, dit le jeune, le mari malheureux, premier mariage avec Aliénor d'Aquitaine, c'est pas ici que je vais développer ce point évidemment, et son fils à côté sur le petit sceau des archives nationales qui fait quelques centimètres de diamètre et que j'ai agrandi un peu monstrueusement grâce à l'image numérique. Il s'agit bien sûr du fondateur de la nation, c'est-à-dire le vrai père de la nation française, c'est Philippe Auguste, bien sûr, l'homme de Bouvines, l'homme de l'université, l'homme du Louvre, l'homme de tant de réformes qui ont assis le pouvoir en France et l'État qui précède la nation. Ces deux rois sont les deux rois constructeurs de Notre-Dame de Paris, mais c'est Louis VII, chronologiquement, bien sûr, qui est celui qui a donné l'impulsion avec un évêque, Maurice de Sully, qui était un personnage issu du peuple et qui avait pris ce qu'on n'appelait pas à l'époque l'ascenseur social grâce à sa foi et à son intelligence. pour Maurice de Sully, la reconstruction de la cathédrale de Paris, c'était évidemment un point de nécessité lié à l'obsolescence de la cathédrale précédente, hein, qui avait été construite pour l'essentiel par Clovis et surtout par son fils, Childebert. Et cette cathédrale ancienne avait besoin, après plusieurs siècles déjà d'existence, d'être refaite et surtout agrandie, puisque à ce moment précis du XIIe siècle, Paris est en train d'acquérir vraiment le statut de capitale qu'elle ne perdra plus jamais après cette époque, malgré les accidents, notamment de Versailles. Et cette capitale, elle est vraiment celle des Capétiens, une dynastie qui sort de Paris et qui va bientôt faire de Paris le point d'ancrage de son pouvoir. Le père de Louis VII le Jeune, que vous connaissez bien sûr, qui est Louis VI le Gros, est le premier grand roi parisien, celui qui a passé dans une vie très itinérante de ces rois qui sont obligés de bagarrer toute la journée, eh bien, le plus de temps à Paris, dont on sait aujourd'hui qu'il a commencé des réformes qui touchent à Paris et que son fils et son petit-fils Philippe Auguste vont porter à perfection. Mais Louis VII, lui, a un rapport un peu plus compliqué avec la question de la religion et avec la question de l'image de la monarchie à ce moment précis du XIIe siècle, pour une raison qui a été rappelée récemment, je crois avec beaucoup de force, par Michel Pastoureau dans un très bel ouvrage qui s'appelle « Le roi tué par un cochon ». Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit en réalité du fils aîné de Louis VI le Gros qui aurait dû régner et qui avait déjà été sacré. On le faisait à cette époque, on faisait sacrer son héritier de son vivant pour être sûr qu'il n'y aurait pas de querelle de régence, d'investiture ou de légitimité à la mort du roi. Et ce fils Philippe, le fils aîné, eh bien, alors qu'il avait toutes les qualités physiques, intellectuelles, qu'il avait une aura importante, eh bien, il a fait une tragique chute de cheval. Son cheval a été, il a fait lui-même une chute de cheval parce que son cheval a eu dans les pattes un cochon girovague qui sortait de nulle part. Il a chuté sur la tête et il est mort quasiment instantanément. Donc, c'est un accident, évidemment, comme il peut en arriver dans l'histoire de la monarchie. Charles VIII est mort en se cognant le front au linteau d'une porte trop basse. Il y a des accidents idiots qui peuvent changer l'histoire des hommes. Mais dans l'affaire de cet enfant, cet adolescent mort renversé par un cochon, il y a une dimension d'impureté. Le rapport des catholiques, des chrétiens au cochon n'est pas tout à fait identique à celui des juifs et des musulmans, mais c'est un animal diabolique, porcus diabolicus. Et le fait que ce cochon ait renversé et tué l'espoir de la famille royale a tout de même été interprété comme un signe extraordinairement négatif. Et Louis VII a passé beaucoup de temps à essayer de réparer ça, lui qui ne devait pas être roi puisqu'il était que le cadet et qui avait vraisemblablement des capacités moindres, en tout cas qui a paru être moins à même d'exercer le trône et qui a fait d'ailleurs au début de son règne un certain nombre de fautes malgré les bons conseils de l'abbé Suger, l'abbé de Saint-Denis. Louis VII, c'est la théorie que propose Michel Pastoureau, je la trouve très séduisante. J'espère qu'elle est vraie, je ne peux pas le garantir à 100%. L'idée de Pastoureau, c'est que pour laver cet affront, c'est Louis VII qui a beaucoup insisté sur le fait que la monarchie française devait utiliser les fleurs de lys dans ses armoiries, parce que les fleurs de lys, c'est la fleur de la pureté, la fleur de Marie. Bien sûr, c'est avec le lys que l'ange Gabriel vient annoncer à Marie sa destinée. Et c'est le moment, effectivement, où dans les armes de France, on voit se fixer ce que vous avez sur le dessin pittoresque de Guénière qui représente le roi sur son tombeau à l'abbaye des Barbeaux. C'est ce qui a fait que Louis VII a été préservé, parce que les Jacobins qui ont détruit les tombeaux royaux de Saint-Denis n'ont pas eu le temps de détruire celui-là. Donc aujourd'hui, Louis VII a été réenterré à l'époque de Louis XVIII sous la Restauration à Saint-Denis, mais son tombeau n'était pas à Paris ni à Saint-Denis, il était dans la grande Île-de-France. Et vous voyez qu'il repose sur un fond bleu avec un semis de fleurs de lys d'or qui va devenir le blason royal, le signe de la famille royale, alors que pour ce qui est de la maison du roi, ce sont les couleurs bleu, blanc, rouge pour les domestiques et les soldats qui deviendront la règle. Donc Louis VII a pu vouloir développer un lien particulier avec la figure de Notre-Dame et de la Vierge, avec ses fleurs de lys, voire, et ça c'est peut-être le point limite de la théorie parce qu'elle est séduisante, mais elle est peut-être un tout petit peu frappée de téléologie, voire une sorte de dévolution déjà avant Louis XIII de la France à la Vierge, pour que la France soit protégée par la Vierge, dans le cadre bien sûr de cette famille souillée par la mort de cet enfant roi, mais aussi bien sûr dans le cadre des grandes difficultés que le Capétien rencontre avec nos amis ennemis anglais, évidemment. Aujourd'hui, les Anglais veulent sortir de l'Europe. À l'époque, ils occupent une grande partie de la France et ils souhaitent y rester. Et donc, c'était toujours évidemment des choses compliquées. Donc, c'est sous le règne de Louis VII que se matérialise la volonté de refaire aussi la cathédrale, non pas seulement pour faire plaisir à l'évêque, mais pour doter Paris capitale d'une cathédrale à l'échelle de cette ambition capétienne, de cette ambition du royaume de France. Et c'est pourquoi le roi s'investit énormément dans la construction de Notre-Dame, dans la reconstruction de Notre-Dame, faudrait-il dire. Et cette reconstruction va commencer dans les années 1160, c'est-à-dire les 20 dernières années du règne de Louis VII qui meurt en 1180. À sa mort, son fils Philippe Auguste lui succède sans difficulté, Philippe II. Auguste, dit Auguste plus tard, après toutes ses victoires, et notamment bien sûr celle du fameux dimanche de Bouvines, cher à Georges Duby. Et ce couple de rois va voir se dresser la cathédrale, non pas complètement achevée, elle sera terminée sous Saint-Louis dans les années 1230, mais tout de même très avancée. Et j'en profite pour rappeler que malgré ces chantiers dont on dit toujours qu'ils s'étiraient sur des siècles, ce qui n'est pas toujours faux, en l'occurrence à Notre-Dame il est faux, puisque Notre-Dame a été construite dans un temps relativement court, hein, les années 1160, et ça se termine dans les années 1230. 1240, après il y a une deuxième campagne de travaux, mais donc on voit une volonté qui correspond à l'établissement de Paris comme capitale définitive, qui correspond aussi avec la volonté de Philippe Auguste de créer l'Université de Paris, dont la Sorbonne est aujourd'hui un des dépositaires, et c'est pour ça que je suis aussi évidemment là dans une position hiérarchique inférieure, et très ému vis-à-vis de notre fondateur à la Sorbonne. Université qui sera complètement développée juridiquement sous Saint-Louis, et université qui entretient un lien dialectique avec l'Église, puisque ce sont des écoles cathédrales qui vont se transporter sur la rive gauche que va naître le quartier latin et ce quartier des études à l'abri donc de la protection royale. Ça vous explique une chose qui est frappante, évidemment, c'est le plan de Notre-Dame, qui est un édifice extraordinairement vaste. Bien sûr, ça nous paraît banal aujourd'hui et nous sommes peut-être habitués à voir de très grands édifices, mais Notre-Dame a une échelle, évidemment, qui est celle de cette ambition dont je parlais à l'instant. Vous voyez que cette immense nef, 8 travées, qui succède à une sorte de pronaos pris entre les deux tours que vous apercevez à gauche de la façade, un fort transept et un chœur qui se développe sur 5 travées, plus le rond-point, qui lui-même a 5 travées. Et cet ensemble est ici bordé de doubles bas-côtés et de doubles déambulatoires, ce qui fait 5 nefs en tout, avec les chapelles latérales de l'enveloppe. Même si ce n'est pas tout à fait le plan d'origine, il a été assez rapidement rendu à ce point. Et donc c'est un édifice qui frappe par son ampleur, par l'ambition de ses proportions. Il vous frappe aussi peut-être, si vous êtes habitué aux cathédrales médiévales et à la saveur des plans plus ou moins réguliers, par sa régularité justement. C'est aussi ce que reprochent en général les historiens de l'art à Notre-Dame, trop classique, trop symétrique, peut-être pas assez pittoresque, mais justement c'est un point qui me paraît intéressant à soulever. Une cathédrale symétrique, symétrie dont la façade témoigne à nouveau de manière assez éclatante, puisque s'il vous suffit de penser à toutes ces cathédrales harmoniques avec des tours qui sont de périodes différentes, comme à Chartres, ou qui entretiennent un rapport plus fort avec la sculpture, il y a là, dans Notre-Dame, une régularité absolue, une symétrie absolue, ce que Victor Hugo appellera d'un mot si juste le sphinx à deux têtes, hein, qui veille sur Paris, là, une fois de plus, les poètes plus forts que les historiens de l'architecture, et une espèce de régularité très dessinée, qui peut paraître un peu rude, un peu romane presque aussi dans ses effets de masse, qui doit beaucoup vraisemblablement bien sûr au fait qu'on n'ait pas construit les flèches de pierre qui étaient prévues au-dessus des deux tours que vous voyez aujourd'hui coupées par des plateformes. On sait que la structure aurait pu recevoir des grandes flèches de pierre et que ça aurait évidemment un tout petit peu changé la silhouette, qui est beaucoup plus proche d'une sorte de carré long, rectangle, carré long, assez étonnant pour un type d'édifice comme une cathédrale. Avec les trois grands portails que vous apercevez, qui ont été sculptés dans les années 1220 et qui représentent l'apogée de la sculpture française de cette époque, la galerie des rois, qui sont les rois descendants de ce fameux arbre de Jessé, les rois de Judée, qui sont donc les ancêtres du Christ, et la grande rose qui sert de couronne à la Vierge, dont la statue est au centre, puisque c'est la cathédrale de la Vierge Marie, Notre-Dame de Paris. Pour le XIIIe siècle, vous le savez, a eu un culte particulièrement développé à la Vierge, et donc la plupart des cathédrales sont dédiées au nord, en tout cas à Notre-Dame. À l'intérieur, l'édifice frappe évidemment aussi par cette ambition et cette hauteur et cette profondeur, mais, et sur cette photographie qui est arrangée par la magie de l'Internet et aussi peut-être par l'électricité, vous voyez qu'elle a tout de même un défaut qui a toujours été considéré depuis l'origine comme assez gênant. Elle est très sombre. C'est une cathédrale dont l'architecte peut-être a eu un tout petit peu de mal à gérer la vastitude et le rapport de la lumière à l'intérieur, ce qui explique tous les efforts qui ont été déployés au cours du temps pour l'éclaircir, éclaircir par la peinture, la passer avec des badigeons clairs, et par la destruction des vitraux de couleur, car la plupart des vitraux de Notre-Dame aujourd'hui ne sont pas anciens, ils remontent au XIXe siècle, à la réserve des roses, des fameuses roses que vous connaissez. Notre-Dame est, comme toutes ces grandes cathédrales, un poème de pierre qui est là aussi pour édifier, selon les textes de l'Église, tous ceux qui ne savent pas lire et qui ne peuvent décrypter que des images, les images que fabrique l'Église en grande quantité par le vitrail, par l'enluminure, par les bannières et aussi par la sculpture des portails devant lesquels on peut méditer au moment d'aller écouter la messe sur, évidemment, la position de l'homme face à Dieu, son créateur. Et voyez ici qu'au portail du jugement dernier, vous n'avez pas beaucoup de choix entre le bien et le mal. Il n'y a pas une gamme infinie, évidemment, de choix. Et vous avez l'archange Saint-Michel avec à gauche sa balance qui pèse les âmes. Et quand les âmes ne pèsent pas assez, vous voyez qu'il y a un espèce de monstre qui essaie de tirer les gens vers le bas, qui sort du linteau. Et puis, si vous êtes dans le mauvais camp, pas de chance, eh bien, le diable fourchu et cornu, peu sympathique, qui est à côté, avec des déformations de visage tout à fait stupéfiantes, va vous entraîner avec le personnage qui tire la langue vers la droite, directement dans les flammes de l'enfer. Et vous voyez que le premier personnage est un chevalier. En effet, dans les méchants, il y a aussi des évêques, des nobles. Et on voit bien qu'au moment du jugement dernier, la position sociale ne servira pas à grand-chose et que les biens de ce monde n'auront pas permis de se protéger d'une cuisson éternelle. Il y a ces images qui sont faites pour faire peur, évidemment, mais il y a aussi des images qui sont faites pour attendrir et pour adoucir. Et de toutes ces images, la seule qui n'ait pas été brisée par les Jacobins, qui, vous savez, adoraient casser au marteau des statues, c'est une activité intellectuellement un peu faible, je vous le concède, ils n'ont pas cassé cette merveilleuse statue du portail nord de la Vierge. Ils ont seulement donné un coup de marteau sur l'enfant Jésus qu'elle tenait avec cet amour maternel dans les bras, mais elle a gardé ce déhanchement formidable et cette tension de la figure. C'est cette Vierge du portail nord qu'on peut encore voir, alors que toutes les autres statues sont des variations ou des copies plus ou moins habiles de l'époque du XIXe siècle, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Je le disais, à l'intérieur, ce qui est de plus extraordinaire sont ces fameuses roses. Ici, c'est la plus belle, celle du nord, qui est au-dessus de la statue que je viens de montrer. Cette rose nord qui a gardé ces fameux vitraux et ce bleu qui a fait le bonheur de Chartres et de Saint-Denis au même moment. Rose qui a échappé miraculeusement le 15 avril à la destruction, grâce notamment, bien sûr, au fait que les pompiers ont déversé des milliers de litres d'eau sur les murs pour essayer d'empêcher que la chaleur ne fasse fondre les plombs qui tiennent les verres entre eux et que du coup tout s'effondre tout simplement. Ce qui aurait été tragique, évidemment, puisque cette verrière a traversé les âges depuis le XIIIe siècle jusqu'à nous et participe donc de cet extraordinaire patrimoine mystique de la cathédrale avec ses couleurs très profondes, tous ces personnages en médaillon qui nous renvoient au texte biblique et qu'il fallait lire avec beaucoup de, d'effort, parce que ils sont placés évidemment très haut. C'est plutôt l'harmonie et surtout cette sorte de roue qui tourne et qui est un symbole à la fois cosmique, céleste et en même temps religieux. L'histoire de Notre-Dame, elle est liée intimement, je le disais, au fait qu'elle est placée dans une île, l'île de la Cité, dont la tradition capétienne a fait, par fabrication d'une sorte de mythe passionnant, mais peut-être qu'un mythe, l'île mère où les Gaulois se seraient d'abord trouvés avant la conquête de César, lorsque le lieutenant de César, Labienus, a écrasé la petite ville de Lutèce et sa troupe de Gaulois dirigée par Camulogène, qui trouve la mort au combat. On ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, on n'a jamais pu prouver qu'elle était vraiment ailleurs, cette petite Lutèce gallo-gauloise, et peut-être que finalement, la tradition est vraie. En tout cas, pour les Capétiens, ça ne faisait pas de doute, et l'articulation de leur prise de pouvoir dans l'espace passe par cette île, dans laquelle on trouve d'une part, à l'est, la cathédrale de l'évêque et du roi, et à l'ouest, dans la pointe, et je me sers ici d'une merveilleuse miniature, vous le savez, vous les connaissez bien, hein, des très riches heures du duc de Berry, conservées dans les collections du duc d'Aumale à Chantilly, qu'il a donné à la France. Et c'est le palais, devenu notre palais de justice, avec son jardin qui a disparu à l'époque de la place Dauphine. Palais dans lequel Saint Louis, qui a achevé Notre-Dame, va pourtant créer un monument qui vient s'ajouter à la fois à cette politique intimement liée à la foi chrétienne et en même temps à politique d'embellissement. C'est la Sainte-Chapelle qui va être ici créée au milieu du siècle, 1248-1250 à peu près, un chantier éclair, incroyable, qui subsiste aussi encore aujourd'hui et qu'on peut admirer, où le roi veut faire abriter les reliques de la Passion du Christ qu'il a achetées aux créanciers de l'empereur Baudouin de Constantinople. Et cette chasse, ce reliquaire de pierre à l'échelle monumentale, qui est aussi un exploit, qui a aussi sa flèche, vient habiter le ciel de cette capitale capétienne et se trouve vraiment à une portée de Notre-Dame. Cependant, la réussite virtuose de l'architecture de la Sainte-Chapelle va fonctionner au fond comme un effet repoussoir pour la cathédrale. La cathédrale paraît quand même beaucoup plus lourde, beaucoup moins subtile, beaucoup moins lumineuse. Vous pensez évidemment à ces images quand vous êtes immergé dans la Sainte-Chapelle et baigné par cette lumière incroyable, alors que Notre-Dame est une cathédrale plus sombre, plus massive. Et donc, il y a un effet de l'un vers l'autre. C'est l'édifice neuf qui va faire prendre conscience à Saint-Louis qu'il faut peut-être recommencer une partie du chantier. Et c'est pourquoi Notre-Dame connaît une seconde campagne de travaux où vont se mettre en place les grands portails du transept nord et sud. Ça, c'est le portail sud qui porte comme dédicace Saint-Étienne, premier saint martyr chrétien, qui était la dédicace de la cathédrale primitive construite par la volonté de Clovis. Portail Saint-Étienne, ici vu en vue serrée, qui donne donc sur la Seine, au sud, et qui était masqué partiellement à l'époque par le palais gothique de l'évêque, et dont vous avez la rose sud, très manipulée par Viollet-le-Duc, mais sur un dessin qui n'est pas incohérent. Et vous voyez que, comme à la Sainte-Chapelle, ce magnifique portail est essentiellement vitré. Il est percé essentiellement et clos de vitraux, alors que la structure architecturale est limitée à sa plus simple expression, les deux grands pieds droits verticaux terminés par des pinacles, le grand pignon, et vous apercevez en bas le portail dont le gable central est coupé sur la photo. Donc, une cathédrale qui trouve un achèvement plus lumineux à l'époque du gothique rayonnant. La cathédrale étant achevée, elle entre dans l'imaginaire, non seulement des Parisiens, non seulement du roi et de son évêque, mais dans l'imaginaire de Paris, capitale de la France, qui sert notamment de décor pour des miniatures, comme cette célèbre descente du Saint-Esprit de Jean Fouquet, avec, vous le voyez ici, la cathédrale, ces deux tours qu'on reconnaît bien, la flèche d'origine, une flèche qui a toujours existé dès le XIIIe siècle. J'y reviendrai parce que là, je me séparerai de Monsieur le Président de la République qui a raconté un petit peu des cracks. Mais bon, on ne peut pas savoir tout non plus, hein, ce n'est pas son métier. Ici, c'est la tour de la prison de l'évêque, car il avait une justice et donc il avait une prison. Et puis ici, le petit châtelet et le reste, ce sont les maisons de l'île de la Cité. On aperçoit ici la Sainte-Chapelle. Notre-Dame devient, au fur et à mesure des images, vous voyez, le point d'ancrage, la tour Eiffel du Moyen-Âge, c'est Notre-Dame. C'est l'édifice qu'on voit de partout qui domine la ville. Sortie du Moyen-Âge, la cathédrale n'a pas connu de renaissance et c'est un temps assez difficile en réalité que le XVIe siècle pour Notre-Dame où il ne se passe rien, des petits travaux et la cathédrale est un peu à l'écart des grands mouvements qui agitent Paris et la monarchie avec le retour de François Ier de sa captivité, avec les guerres civiles entre catholiques et protestants. La cathédrale n'est pas touchée car Paris s'est donné, vous le savez, par passion aux catholiques ultra et donc jamais les protestants n'ont pu vandaliser comme ils l'ont fait dans tant d'espaces religieux et dans toutes les provinces de France l'édifice. Et donc la cathédrale traverse la Renaissance et il ne se passe rien. Il faut déjà enjamber le temps et arriver ici sous Louis XIII au XVIIe siècle, un dessin assez merveilleux qui vous montre le contexte urbain de cette cathédrale de France à un moment où le parvis est tout petit, hein, il est réduit au fait au quart peut-être de l'actuel parvis que vous connaissez, qui a une dimension beaucoup trop grande. Et vous voyez que ce parvis est peuplé. Il est peuplé d'une fontaine, il est peuplé d'une petite église à gauche qui était le baptistère. On se faisait baptiser à côté, le baptistère Saint-Jean-le-Rond. Et ça vous explique pourquoi certains enfants trouvés, comme d'Alembert, portent ce curieux prénom, Jean le Rond d'Alembert, parce que c'est un enfant trouvé qui avait été déposé à côté du baptistère. Et puis il y a une statue, Monsieur Legris, qui est le nom que la malice populaire a donné à cette statue de la fontaine, qui permet de faire une blague formidable quand on a des provinciaux qui viennent vous voir à Paris, on leur donne rendez-vous chez Monsieur Legris. Donc les pauvres provinciaux vont à Notre-Dame et demandent où est la boutique de Monsieur Legris, ce qui provoque le rire de nos ancêtres. Ils étaient très potaches, hein, un peu comme nous aujourd'hui. La cathédrale n'a pas changé. Elle paraît immuable dans sa parure monumentale et décorative. Et pourtant, une reine s'intéresse beaucoup à la cathédrale, une reine qui n'a pas d'enfant et qui n'arrive pas à avoir de garçon, ce qui est évidemment pour elle une position très difficile. C'est Anne d'Autriche, la femme de Louis XIII. Ah, téléphone. Je ne veux pas vous déranger, donc je vous laisse répondre. Elle se passionne pour les églises de Paris, c'est son activité principale. Vous le savez que la reine de France n'a pas de pouvoir, les lys ne filent pas selon la célèbre formule. Et donc, elle va se rendre dans beaucoup de messes. Elle a une piété très démonstrative, c'est une princesse espagnole, comme son nom ne l'indique peut-être pas forcément. Et elle va appuyer des congrégations, payer des tableaux, des autels. Et à Notre-Dame se produisent des miracles autour d'une statue de la Vierge. Donc, elle va faire construire cet autel monumental, l'autel de la Vierge qui se trouve à l'entrée du chœur. Cette passion pour la Vierge qui revient se double d'une époque, vous apercevez donc cet autel tout au fond, ici, cet autel de la Vierge, va se doubler d'une période de changement de goût. On ne trouve pas que la cathédrale soit un édifice inintéressant, mais on s'est un peu lassé de l'architecture médiévale dans son décor. Et on va donc utiliser la peinture, et vous voyez ces grands tableaux qui sont accrochés dans la nef, pour transfigurer l'espace intérieur de la cathédrale. On va appeler cela les mets de Notre-Dame, parce que chaque année, au mois de mai, la Corporation des Orfèvres, qui est censée être la plus riche, puisque ce sont ceux qui manipulent les métaux précieux, offre un grand tableau. Et pour un peintre, évidemment, dans sa carrière, avoir la commande d'un mets, c'est l'assurance d'avoir une toile exposée dans la cathédrale au vu du roi, de l'évêque, de la cour. Et ces mets sont accrochés dans l'édifice. Vous le voyez sur ce tableau, un petit tableau merveilleux qui appartenait à Sir Anthony Blunt, le grand historien de l'art, et qui est maintenant dans une caisse depuis que l'archevêque précédent, l'actuel, Mgr André XXIII, a fermé le musée de l'histoire de Notre-Dame, qui était dans un bâtiment de l'évêché. Et ce tableau est donc en caisse au musée Carnavalet. Je ne suis pas sûr qu'on le revoie de sitôt. Ces tableaux étaient accrochés dans la nef pour masquer les grandes arcades gothiques. Et peut-être ces tableaux qui sont tout à fait connus des historiens d'art, qui ont été très étudiés, qui ont passionné même les historiens d'art. Il y a un très beau livre qui va paraître l'année prochaine sur les mets. Peut-être vous ne les connaissiez pas. En tout cas, vous en avez entendu parler au moment de l'incendie, parce que tout d'un coup, plusieurs personnes ont rappelé qu'il y avait à Notre-Dame des tableaux, que ces tableaux étaient pour certains encore dans la cathédrale, pour d'autres au Louvre, pour d'autres au musée d'Arras, où le Louvre en a déposé une quinzaine. Certains sont encore dans les réserves, ce qui a amené Monsieur le ministre de la Culture à dire aussi une ânerie après celle du président sur la flèche, à savoir que peut-être qu'après la restauration de Notre-Dame, les mets seraient réaccrochés dans la nef, mais il y a très longtemps qu'ils ne sont plus dans la nef, parce qu'évidemment, aujourd'hui, si on les mettait là où ils étaient au XVIIe, on ferait évidemment hurler les spécialistes du Moyen-Âge, parce qu'ils avaient été faits pour masquer la cathédrale, évidemment. Mais évidemment, je ne fais pas de mauvais esprit, vous me connaissez. Le plus important de tout ça, c'est bien sûr le vœu de Louis XIII, le vœu de 1638, à un moment de grande difficulté. Le roi n'a pas d'héritier mâle, donc la couronne est très menacée puisqu'il n'a qu'un frère, qui est Gaston d'Orléans, un garçon pas très sérieux. Et donc ça veut dire des problèmes pour la succession. Il est dans une situation militaire très difficile avec l'Espagne, qui évidemment peut aussi opérer par le bas, mais aussi par le haut, par les Pays-Bas espagnols. Et il y a eu une alerte assez chaude avec Corbie. Et donc le royaume est menacé. La politique de Richelieu, très violente, évidemment, qui va permettre d'accoucher de la grandeur de la France de Louis XIV, est quand même, à ce moment-là, très en balance. Et donc, le roi fait le choix de la dévolution de la France à la Vierge. Il place son royaume sous la protection de la Vierge. Et pour éclairer cette geste politique, parce que ça fait l'objet d'un arrêté du Parlement, un arrêt du Parlement de Paris, donc une chose qui est assez éloignée de notre système de fonctionnement politique, évidemment. Eh bien, le roi va commander ce tableau merveilleux de ce geste du vœu à Philippe de Champaigne, tableau qui était accroché dans le transept, face au cœur, et qui, malheureusement, je le dis d'autant plus volontiers que je suis moi-même normand et canet, que la Révolution a envoyé au musée des Beaux-Arts de Caen, alors que s'il y a un tableau qui devrait vraiment encore être dans la cathédrale, c'est bien celui-là. Tableau merveilleux qu'a étudié Louis Marin dans un texte célèbre de son ouvrage Philippe de Champaigne ou la peinture cachée, avec cet extraordinaire copier-coller spatio-temporel, le roi Louis XIII qui représente l'État et donc qui est en habit sacre avec la couronne et le sceptre dans la main, offrant à la Vierge, comme par transposition, qui est sur le Golgotha en train de pleurer son fils mort. Elle présente son fils tandis que lui présente sa couronne. Le ciel s'ouvre et dans les nuées apparaissent les anges, symbole évidemment de cette opération qui doit aboutir à sauver la France. Et miracle, c'est la victoire militaire, c'est la naissance du petit Louis Dieudonné, Louis tant attendu, Louis XIV évidemment, dont les bonnes fées se penchent sur le berceau pour dire qu'il sera le plus grand roi du monde, selon la célèbre formule qu'utilisait en partie ironiquement Saint-Simon. Et donc ce tableau fantastique de Champaigne nous introduit dans cette piété du XVIIe siècle, très politique, et Notre-Dame est le lieu de cet accomplissement-là. Et c'est pourquoi la fête du 15 août est une fête royale, comme l'anniversaire du roi le 25 août, qui est la Saint-Louis fête nationale, parce que c'est le moment de ce mariage mystique entre la France et la Vierge qu'a voulu Louis XIII, peut-être en rebond de ce que déjà Louis VII avait imaginé quelques siècles plus tôt. Ce vœu sera renouvelé par Louis XIV à la mort de son père, jeune roi, un autre tableau de Philippe de Champaigne, un petit peu plus doux, puisque là le Christ n'est pas mort, mais encore enfant dans les bras de sa mère. Et regardez, le petit Louis XIV, l'enfant roi, offre sa couronne à la Vierge et son sceptre. Il est suivi de près de son petit frère, le duc d'Anjou, qui sera le futur Philippe d'Orléans, sous le regard bienveillant d'Anne d'Autriche, régente et la reine-mère, tout de noir vêtu puisqu'elle porte le deuil de son mari Louis XIII. Cependant, le vœu de Louis XIII ne comportait pas que ce tableau et que cette institution d'une nouvelle fête religieuse liant profondément la monarchie et l'Église. Elle prévoyait cette cérémonie, cette transformation, un nouveau cœur dans Notre-Dame. Des travaux qui donc faisaient sortir pour la première fois la cathédrale de son état du Moyen-Âge, et c'est ce qu'on appelle donc le cœur, le nouveau cœur de Notre-Dame, qui n'a pas été fait par Louis XIII, il est mort tout de suite après, en 1643, mais par Louis XIV, qui s'est souvenu de l'engagement qu'avait pris son père. C'est Louis XIV aussi, elle porte le nom d'Emmanuel, qui va faire couler le fameux bourdon, qui est cette cloche, qui est une des plus grandes cloches de France, et qui sonne avec une note extrêmement grave dans l'air. On l'entend très peu sonner, mais quand elle sonne, on peut presque toucher le son tellement il est puissant et grave. Donc vous avez la gravure ici et la cloche d'origine. Mais c'est surtout le chantier du cœur qui m'intéresse, puisque Louis XIV avait promis la transformation de Notre-Dame, justement pour honorer la Vierge. On s'est posé des questions à ce moment-là très passionnantes qui ressemblent à nos questions d'aujourd'hui déjà. Est-ce qu'il est licite de transformer une église gothique, même si on n'aime plus le gothique, dans un style qui serait le style contemporain ? Faut-il faire un baldaquin contemporain, annonciateur du futur, n'est-ce pas ? Et c'est une question passionnante parce qu'elle est débattue dès l'époque, selon les termes habituels, la querelle des anciens et des modernes. Certains trouvent que ce n'est pas gênant de faire, vous le voyez comme sur ce très beau dessin de Jules Ardoin-Mansart, un maître-autel en baldaquin, inspiré, bien sûr, même si c'est beaucoup plus calme, et à la française du baldaquin de Saint-Pierre de Rome, de Bernin. Ou faut-il respecter l'architecture du Moyen-Âge, même si on la trouve assez vilaine dans son décor ? Vous voyez sur ce plan que le baldaquin aurait pris place au niveau du transept, sous le carré qui s'est effondré le 15 avril, et pas dans le cœur lui-même, c'est-à-dire qu'il y avait ici un effet de juxtaposition. C'est finalement une autre proposition qui a été faite, qui était de s'introduire dans le cœur du Moyen-Âge et de le détruire pour le transformer, ce qui provoquera évidemment les critiques très acides de Viollet-le-Duc au XIXe siècle. On est encore dans l'idée, vous le voyez, d'un baldaquin. Là, il se rapproche stylistiquement vraiment de celui de Saint-Pierre. Il a même été frappé en médaille, vous voyez, 1699. On y renoncera peut-être sagement. En revanche, que vous apercevez sur la médaille, le décor nouveau de part et d'autre sur les murs, lui, va être réalisé, comme le montre ce petit tableau, lui aussi conservé dans le musée mis en caisse il y a 10 ans. La messe du chanoine Laporte, chanoine qui avait donné de l'argent pour ce chœur, dans lequel vous voyez les grilles de fer forgé dorées, les plaquages de marbre, les statues de marbre blanc modernes, la Pietà, etc., les nouveaux emmarchements en marbre, tout cela transforme le chœur en un espace tout à fait digne de la grandeur versaillaise, puisque c'est un chantier contemporain de la chapelle royale de Versailles. Pour cela, les architectes du roi, Jules Ardoin-Mansart puis Robert de Cotte, usent de tous leurs talents pour refaire les autels, les grilles, toutes les grilles en fer forgé frappées au double L de Louis XIV couronné, tous ces décors qui seront détruits par les Jacobins et pour ce que les Jacobins n'avaient pas détruit, par Viollet-le-Duc, qui trouvait que c'était scandaleux d'avoir fait ça. Voilà les plaquages de marbre qui habillent les ogives qui ont disparu, le nouveau maître-autel en tombeau avec les anges qui s'enroulent en volute sur les angles, et de tout cela, Viollet-le-Duc a fait une sorte de grand mélange, puisqu'il n'a pas eu la possibilité de tout détruire. Donc il a été obligé de garder la Pietà et les deux statues de roi sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Louis XIII à droite qui offre sa couronne et Louis XIV à gauche en prière. La grande croix dorée a été ajoutée à l'époque de Monseigneur Lustiger. Ces statues de Coisevaux et de Coustou, Nicolas Coustou est le neveu de Coisevaux, a reçu la commande, sont des statues intéressantes parce que pour Louis XIII, c'est une statue de type historique puisqu'il a fallu reprendre les portraits de Louis XIII et lui restituer sa physionomie de la première moitié du siècle avec sa moustache et sa barbichette. Il offre sa couronne exactement comme dans le tableau de Champagne avec un peu moins de légèreté évidemment dans le marbre que vous avez sous les yeux. C'est une statue qui a fait le tour du monde puisque à cause d'un objectif qui était trop serré, on a cru qu'il avait été décapité le soir de l'incendie par la chute d'une pierre. En réalité, il y avait une pièce devant qui cachait la tête, donc on a eu très peur, et puis en fait, la statue est intacte. Mais la plus belle, c'est celle qui est de l'autre côté, qui est l'œuvre d'Antoine Coisevaux, le meilleur sculpteur psychologique de Louis XIV, puisqu'il a représenté le roi sous les traits d'un homme âgé, fatigué, vieilli par les années de pouvoir. Nous sommes là à l'extrême fin du règne. Ces statues ont été sculptées dans les années 1710 et placées à la mort du roi en 1715 dans le chœur. Et c'est la première fois que l'on voit Louis XIV à genoux devant son maître, puisqu'il ne se reconnaît qu'un seul supérieur hiérarchique, bien sûr, et c'est Dieu, dont il est le lieutenant sur terre, à genoux sur ce coussin, la couronne posée, la main sur le cœur, en signe d'acceptation, évidemment, de sa condition humaine, et la main ouverte, la main gauche ouverte, en attendant le jugement dernier, évidemment. Donc il y a là une espèce d'image assez bouleversante, la dernière image du roi soleil, si arrogant, si agaçant dans son expression du pouvoir, n'est-ce pas ? Et qui en même temps ici devient finalement un homme un peu plus humble, celui dont, lors des obsèques, le prêtre rappellera qu'il est le plus grand roi du monde entre quatre planches de bois. Donc une espèce comme ça de rappel de la finitude de toute chose humaine. Pavage de marbre, sculpture, boiserie, stalles, grands tableaux qui sont les carrés roses que vous avez dans l'image supérieure. Tout cela a été détruit par Viollet-le-Duc, mais il en reste, regardez, les stalles qu'il n'a pas pu détruire, ces somptueux stalles en chêne que vous apercevez ici en vue plongeante, qui ont été préservées miraculeusement le 15 avril et dans lesquelles la vie de la Vierge a été sculptée par les meilleurs ornemanistes des bâtiments du roi spécialisés dans la sculpture sur bois. Partie qu'on voit un peu moins bien quand on visite Notre-Dame, parce que c'est dans le cœur, il faut que le cœur soit ouvert, et qu'on ne peut pas voir quand on reste 3 minutes 50. Dans cette séquence, 8 tableaux de la vie de la Vierge, qui sont des pièces majeures de la peinture française du début 18e. Celui-ci est conservé dans les réserves du Louvre, il n'est plus exposé, c'est, vous le voyez, un Louis de Boulogne, avec la Vierge qui vient présenter son fils au temple, et puis, bien sûr, là, ce tableau est toujours conservé dans l'église, mais dans une chapelle, un célèbre tableau de Jouvenet qui, étant devenu paralysé de la main droite, a réussi à le peindre de la main gauche alors qu'il était très âgé. Et c'est un des tableaux les plus étonnants, bien sûr, de cette séquence très colorée qui devait frapper vraiment et totalement transfigurer le cœur à la gloire donc de l'alliance, une fois de plus, entre la France et Notre-Dame. L'époque des Lumières est une époque, là aussi, peut-être un peu plus en demi-teinte dans l'histoire de Notre-Dame. Je signalerai tout de même à votre admiration un grand archevêque de Paris, Mgr Antoine de Noailles, qui s'est fait représenter ici comme un prélat bâtisseur. Vous avez derrière, regardez, des anges et des petits ouvriers qui s'attellent à un chantier de taille de pierre. Ouais, on le voit très bien derrière. Et qu'est-ce que c'est que cette taille de pierre ? Ben, on le devine, c'est la réparation de la cathédrale qui est ici. Puisque la cathédrale commence à présenter des faiblesses structurelles avec le temps. Elle est quand même construite sur une île, près de l'eau, dans un sol qui n'est pas très stable. Et donc il y a de grands travaux dans les années 1715-1720, grâce à Mgr de Noailles. La cathédrale n'a pas changé par rapport à l'époque médiévale, mais les peintres, maintenant, on voit les choses un peu différemment. Donc vous avez ici la célèbre silhouette avec ces grandes rames d'arc-boutant du chevet, la flèche, les arbres du jardin de l'archevêque, les maisons du vieux Paris, de l'île Saint-Louis, le palais gothique qui est devenu progressivement un beau palais aménagé de manière plus somptueuse du côté sud, là aussi, et les maisons des chanoines qui entourent la cathédrale, qui dominent donc fortement ce petit quartier habité par les 60 chanoines qui, à leur mort, perdaient la maison qui était donnée à un nouveau chanoine qui était désigné. Maisons avec jardin qui ont quasiment toutes disparu, il en reste 4 ou 5, et qui formaient le quartier canonial, comme dans un certain nombre de villes de France. Voilà une silhouette donc toujours là, toujours présente, tutélaire, et à l'intérieur, le blanchiment dont je parlais, un enduit jaune qui éclaircit l'église, tous les vitraux passés en blanc, maintenant beaucoup de gens lisent et suivent la messe sur leur missel, les tableaux accrochés pour masquer les ogives, et le cœur de Notre-Dame refait, avec cette grande grille dont vous avez vu les dessins tout à l'heure. Donc une volonté progressive d'adaptation sans changer fondamentalement la silhouette de la cathédrale. C'est à cette époque qu'on a réalisé le buffet des grandes orgues sculptées, qui est un grand buffet des années 1740 et qui lui aussi a survécu au drame, même si nous savons que certainement l'instrument a souffert des variations de température, de l'eau et de la poussière. Évidemment, la cathédrale a grandi, la ville de Paris aussi, et maintenant le quartier est très dense, peut-être trop dense pour les urbanistes et tous ceux qui ne s'appellent pas encore comme cela, qui réfléchissent à l'embellissement des villes. Aussi, sur ce plan de Turgot de 1739, on voit la cathédrale tout de même très prisonnière de son quartier. Selon la tradition du Moyen-Âge, la cathédrale surgit au milieu du quartier ancien. On va tout de même réfléchir à agrandir au moins le parvis de Notre-Dame. Et vous voyez sur ce plan de 1750 et quelques, une réalisation qui consiste à démolir un peu de maison ici pour essayer d'agrandir quand même le parvis. Alors on n'en a fait que la moitié, il aurait fallu faire la même opération de l'autre côté, mais on voit bien que ce bâtiment permet d'aérer un peu la cathédrale et de lui donner plus de parvis. Ce bâtiment, c'est un somptueux édifice construit par l'architecte Germain Boffrand, l'hôpital des enfants trouvés. Et nous sommes là dans cette configuration très intéressante. La cathédrale où on soigne les âmes est toujours en proximité des lieux où on soigne les corps, l'hôtel Dieu qui est à côté, et maintenant cet hôpital pour les enfants trouvés, c'est-à-dire les nourrissons que les mères abandonnent pour des raisons liées évidemment à une culpabilité sociale, hein, enfants sans père, enfants hors mariage. Et donc ces enfants sont traités dans cet hôpital, et donc il y a tout un quartier aussi du soin autour de la cathédrale où on peut soigner les pauvres, les recueillir, et c'est une dimension qui a subsisté jusqu'à nos jours avec l'hôtel Dieu, même si celui-ci est en grand danger aujourd'hui. Dans ces enfants trouvés, il y a une chapelle qui était célèbre pour cette peinture, je vous montre la gravure, tout ça a été détruit. Une peinture de Natoire qui représentait une chapelle en ruine avec une adoration des bergers, quelque chose d'assez stupéfiant qui a beaucoup fait parler à l'époque, mais qui a disparu assez rapidement. Il y avait même, qui peut se souvenir de ça aujourd'hui, un arc de triomphe à côté de l'église pour entrer dans le quartier des chanoines. On voit là les effets des nouvelles idées de l'architecture qui modernisent un peu plus fortement la cathédrale. Vous voyez, cet arc de triomphe se trouvait ici, à l'entrée du quartier canonial, tandis que de l'autre côté est le palais de l'évêque. Le roi Louis XV aussi s'intéresse à la cathédrale, à une époque de grande irreligion et d'attaque des philosophes contre l'Église catholique, contre le pouvoir de l'archevêque, contre la monarchie. Le roi se doit de défendre l'Église, il le fait plus ou moins activement, mais il va commettre l'architecte Soufflot, dont vous avez le beau portrait à gauche, à la construction d'un édifice qu'il a approuvé, et qui est la nouvelle sacristie et le trésor de Notre-Dame, dont le chanoine Montjoie, portrait sympathique, mais pas une très grande toile, je suis d'accord avec vous, à droite, tient le plan. Cette construction était l'édifice le plus moderne de Notre-Dame, et sur ces beaux dessins originaux conservés aux Archives nationales, vous voyez la construction neuve de Soufflot, qui vient s'accoler littéralement à la cathédrale gothique dont on voit le dessin, en coupe sur la gauche, et vous avez la signature du roi, Louis, qui veut dire donc il approuve le projet gravé, avec la statue du roi en buste au-dessus de la religion, et la façade gravée à l'arrière, connue par ce petit tableau du musée Carnavalet, un bâtiment donc qui faisait le lien entre le palais de l'archevêque et la cathédrale, mais dans un style complètement neuf, qui tranchait donc avec le caractère médiéval jusque-là dominant des alentours de Notre-Dame. C'est aussi à l'intérieur de la cathédrale le temps de modernisation plus forte dans certaines chapelles, et ici je vous montre le célèbre mausolée du comte d'Harcourt avec cette grandiloquence de la sculpture française de cette époque. Vous voyez le mort dans son tombeau. Est-on en train de l'ouvrir? Est-on en train de le fermer? Il y a une très belle ambiguïté. Et un monument de marbre très démonstratif de Pigalle qui nous donne une idée des richesses qu'on pouvait trouver dans la cathédrale Notre-Dame. J'insiste un peu là-dessus parce qu'évidemment, aujourd'hui, quand on va à Notre-Dame, on ne voit presque rien parce que Viollet-le-Duc a fait le vide. Et puis ça, c'est une image tardive de Notre-Dame que je voulais vous montrer. C'est un dessin inédit d'Hubert Robert qui est sur le marché de l'art en ce moment et qui est un dessin, comme toujours chez Hubert Robert, un tout petit peu faux dans les proportions. Ce pont n'existe pas au premier plan, mais vous savez qu'il aime bien créer ses vues avec l'arche par en dessous. Mais évidemment, ce qui est très beau, c'est de voir la silhouette de la cathédrale avec sa flèche, la fameuse flèche du XIIIe siècle ignorée de la présidence de la République et qui va pas tarder à disparaître sous la Révolution française. Donc ce sont des images vraiment de la cathédrale sous Louis XVI. Dernières images sous Louis XVI, le début de la Révolution française. La Révolution française n'est pas un grand moment à Notre-Dame de Paris, je ne vous étonnerai pas en disant cela, mais ce n'est pas non plus un monument que la Révolution a utilisé énormément. Au début de la Révolution, il y a eu des événements au moment où tout ça est encore très consensuel. Le roi appelle la France à la régénération. C'est lui qui convoque les États généraux. Il ouvre une boîte de Pandore qu'il conduira à la mort. Il ne le sait pas, évidemment. Et donc Notre-Dame sert beaucoup par sa vastitude, elle sert pour recueillir des assemblées, les états généraux y envoient des députés. On vient bénir ici les drapeaux de la garde nationale. Il y a encore cet enthousiasme que l'Église elle-même porte au début de la Révolution. Et voilà les grandes bénédictions révolutionnaires à l'époque où Louis XVI est toujours là. Évidemment, tout ça va s'arrêter très vite. La cathédrale va être fermée, profanée, les religieux déportés, et la cathédrale transformée en temple de la raison, avec un décor de rochers en carton-pâte et de jeunes femmes qui chantent la gloire de la raison révolutionnaire. Peut-être que, si vous me permettez, une citation qui n'est pas très scientifique, mais c'est dans un film qui s'appelle « Les mariés de l'an 2 », assez drôle, qu'on voit une scène dans la cathédrale de Nantes qui correspond à ce genre de délire révolutionnaire assez bien reconstitué, avec un terrible commissaire de la Convention joué par un Julien Guillaumard très très en forme. Donc Notre-Dame est fermée et finalement vendue, mise en vente, puisqu'elle ne sert plus. La ci-devant cathédrale est mise en vente par Robespierre. Et je voudrais ici saluer les larmes de crocodile de M. Mélenchon le soir du 15 avril, puisque c'est le dernier sectateur en France de Robespierre. Et il ne se souvenait pas que son héros avait mis en vente la cathédrale pour qu'elle soit détruite et qu'elle devienne un chantier de pierre de taille, comme tant d'édifices religieux. C'est Napoléon, bien sûr, qui a rétabli le culte catholique avec le Concordat, après le Directoire, et qui va se poser la question de Notre-Dame. Et là, nous entrons dans une nouvelle phase, évidemment, de relation entre la France et Notre-Dame, qui est une phase, évidemment, très politique, vous allez me dire. Le vœu de Louis XIII est très politique, mais la séquence s'est brisée avec la Révolution française, de la monarchie absolue, et donc maintenant Notre-Dame est un objet que les régimes qui vont se succéder à des rythmes très soutenus au XIXe siècle se doivent d'utiliser à leur profit. Régime court, besoin de propagande, besoin d'image, Napoléon l'a très bien compris, et lorsque le jeune général républicain a décidé qu'au fond, la couronne n'était pas si mal, et qu'il va se faire sacrer empereur en attendant d'épouser une parente de Marie-Antoinette, le deuxième mariage, Marie-Louise, et d'appeler Louis XVI dans sa correspondance « mon oncle », eh bien, Napoléon va choisir de ne pas se faire sacrer à Reims, trop encombré du souvenir de la monarchie, mais à Paris. Et c'est lui qui va réinvestir la cathédrale dans l'imaginaire politique contemporain. Personne aujourd'hui ne pourrait imaginer qu'une grande cérémonie religieuse liée à l'État se passe à Reims, à l'exception, bien sûr, du traité de réconciliation entre la France et l'Allemagne que voulaient Adenauer et De Gaulle, avec la grande messe où les deux chefs d'État sont dans la nef de ces photos que vous connaissez sans doute. Et donc, Napoléon est le père de cette réutilisation très forte de Notre-Dame de Paris, avec le célèbre tableau de David, qui fait partie de la commande des quatre toiles qui devaient raconter les événements du sacre. Seuls deux ont été terminés, la remise des aigles et ce fameux sacre qui est au Louvre, avec un Napoléon qui pose la couronne sur la tête de Joséphine. Après s'être lui-même couronné, on a fait venir le pape Pie VII, qui est là, mais comme un spectateur un peu désabusé au fond de ce qui se passe. Et la cour impériale, très fantastique, avec le vieil évêque constitutionnel ici. Ce qui m'intéresse dans ce tableau, c'est que vous en profitiez pour voir les fameux plaquages de marbre du cœur de Louis XIV, réalisés par Mansart et de Cotte dans les années 1715 et qui avait survécu à la Révolution française, de même que la Pietà est revenue, pas encore Louis XIII et Louis XIV qui seront rétablis peu après. Tout ce décor a donc existé et David en est un des derniers témoins puisqu'il sera détruit par Viollet-le-Duc. C'est le temps où la cathédrale a recouvré ses fonctions, mais c'est aussi le temps de ce Paris de Balzac et du Paris romantique. La cathédrale a perdu sa flèche, tout son décor sculpté a été détruit par les Jacobins, sauf la statue que je vous ai montrée tout à l'heure. Les tableaux des mets sont partis dans les musées, et la cathédrale apparaît non pas comme un édifice fragile, car elle a toujours une structure pérenne, mais un édifice abîmé par l'histoire, abîmé par la Révolution, sans sa flèche, et voilà la silhouette qui est devenue la nouvelle silhouette de la cathédrale, surtout ses dessins. Quand un homme s'intéresse et va faire entrer Notre-Dame dans une nouvelle dimension qui n'est pas seulement politique et religieuse, mais maintenant littéraire, et qui est bien sûr Victor Hugo, et le best-seller du XIXe siècle, qui est Notre-Dame de Paris, son roman de 1831. Vous voyez sur cette caricature amusante, Victor Hugo a un pied sur l'Académie française, évidemment, un pied sur la Comédie française, et le théâtre de la Porte Saint-Martin, et il s'adosse avec sa plume et sa tête énorme sur les tours de Notre-Dame qui vont lui valoir, évidemment, dans ce panthéon charivari, une notoriété extraordinaire. Il fait de Notre-Dame un personnage du roman qu'il crée autour de cette figure d'Esmeralda et de Quasimodo. Et au moment de l'incendie, vous avez entendu partout, tout le monde citer les pages où il imaginait justement déjà un incendie qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la cathédrale. Et évidemment, c'était le moment de relire ce merveilleux texte qui a beaucoup fait, bien sûr, pour la gloire de Victor Hugo, ça c'est indéniable, mais qui a aussi beaucoup fait pour la gloire de Notre-Dame de Paris et de l'architecture médiévale qui tout d'un coup trouvait un regain d'intérêt aux yeux de la plupart des contemporains. C'est le moment des grandes conférences de Lacordaire également, comme vous le voyez ici sur cette aquarelle, qui draine beaucoup de foule, et vous voyez dans le fond toujours le cœur de Louis XIV avec sa gloire qui est toujours là, que Viollet-le-Duc n'a pas encore détruit. Et c'est le moment aussi de la photographie. Paris, capitale de la photographie, inventée, vous le savez, en 1839, avec une extraordinaire photographie qui est conservée dans les collections nationales. En 1843, la photo représente une cérémonie d'enterrement d'un membre de la famille royale avec les grands crêpes noirs tendus devant la façade. Il y a toujours le bâtiment des enfants trouvés et l'hôtel Dieu, le vieil hôtel Dieu, tout à fait sur la droite. C'est une photographie incroyable qui vous montre aussi toutes les statues vides sur les portails, la galerie des rois, la Vierge a disparu, Adam et Ève. Tout ça a été dépouillé par les révolutionnaires dont le jeu était de faire tomber les statues. La monarchie de Juillet va récupérer à son profit très habilement cette passion que tout d'un coup la France a pour le gothique, une passion qui est liée, vous le savez, aussi à la construction de l'État-nation, puisque après les chocs stylistiques et politiques de la fin 18e et du début 19e, tous les pays d'Europe se demandent quel est le style national. Chaque pays a-t-il un style et peut-on les distinguer les uns des autres? Le style de chaque pays, pour la France, les experts, les archéologues, les antiquaires parlent de ce gothique français, de cette architecture liée à la monarchie française capétienne. Et ça nous oppose notamment à nos amis allemands qui revendiquent la même chose avec la paternité du gothique. C'est l'histoire de la cathédrale de Cologne, dont vous savez peut-être qu'elle a été achevée très fortement à ce moment-là. Alors, Notre-Dame s'introduit partout, dans les romans, on l'a vu avec Victor Hugo, dans les gravures qu'on accroche dans sa chambre, dans les maisons comme dans les belles demeures. Elle s'introduit dans la vaisselle, elle s'introduit dans le mobilier, il y a des pendules à la cathédrale. Et puis maintenant, vous le voyez sur ce tableau dynastique de Winterhalter, le merveilleux portrait du comte de Paris, hein, le petit-fils de Louis-Philippe qui vient de perdre son père, le duc d'Orléans, Ferdinand, qui est mort lui aussi d'un accident de voiture, décidément. Eh bien, il pose, regardez cet enfant, devant Notre-Dame où a eu lieu son baptême. Le baptême du comte de Paris, c'est bien sûr pour la monarchie de Juillet, après la mort tragique de Ferdinand, une façon de réappuyer, de réinsister sur la continuité possible de cette dynastie des cousins des Bourbons qui ont pris le trône en 1830 dans des conditions juridiques assez douteuses. Je peux le dire ici, dans une ville aussi légitimiste, bien sûr, que Bordeaux. Et donc, progressivement, la monarchie de Juillet investit Notre-Dame et propose que, plus qu'une évocation, on en vienne à une restauration. À un moment donc où naît le service des monuments historiques, créé par Louis-Philippe en 1830, il faut s'occuper de restaurer les monuments abîmés par le temps et plus encore, comme disait Chateaubriand, par les hommes. Et c'est le moment où on possède ce désir qu'un maquettiste, dont c'est le métier principal, va réaliser cet objet qui est conservé à la Cité de l'architecture à Chaillot, une maquette de Notre-Dame dans son état de 1840, avec la vieille sacristie de soufflot au premier plan, l'absence de la flèche, les statues enlevées, les vitraux blancs, une maquette dont le toit se soulève pour voir à l'intérieur, et qui est un édifice, une maquette donc qui est un objet, pardon, tout à fait fascinant. Il a été fait par un homme qui s'appelle Galouzeau de Villepin, dont la descendance a chu dans la politique. On organise en 1843 un concours d'architecture pour restaurer la cathédrale. Pas la refaire, mais la restaurer, avec notamment une question qui est posée sur son décor. Ce concours est remporté, finalement, il y a une équipe seulement, c'est Viollet-le-Duc, dont vous avez ici une photographie, Eugène Viollet-le-Duc, qui, à la suite de la génération précédente, s'est passionné pour l'architecture médiévale et s'intéresse maintenant de près à la manière dont on peut restaurer les édifices de l'époque gothique, dont il va se faire une spécialité par passion, par goût. Il va développer des connaissances assez importantes et il va devenir l'homme du gothique à un moment donné, avec, comme toujours en France, caractère très excessif tout autour d'un personnage de ce mouvement. Voilà les très beaux dessins, c'est un dessinateur éblouissant, hein, qui sont conservés dans son fonds, qui a été légué par ses héritiers à l'État français. Donc tous ces dessins sont conservés dans les collections nationales. Voilà le dessin qu'il a soumis au jury et qui est, vous le voyez, le dessin où il recompose complètement le décor sculpté, la galerie des rois, la statue de la Vierge sous la rose et la flèche d'origine dont on connaissait les dessins. Et il se présente avec beaucoup de modestie devant le jury en expliquant qu'il va reconstruire exactement comme c'était avant la Révolution, en conservant religieusement tous les apports successifs des siècles qui ont suivi l'époque médiévale, chose qu'il s'empressera bien sûr de ne pas faire. C'est un mensonge devant le jury, très habile et un peu cynique de sa part. Alors il va redresser la flèche qui a disparu. Voilà un tableau tardif de Notre-Dame qui vous montre que la flèche n'est toujours pas là, mais il vient de construire, il commence par ça, la nouvelle sacristie avec le trésor. Il a abattu le monument de Soufflot, qu'il considérait évidemment comme monstrueux puisque du XVIIIe siècle, et il a fait le trésor, qui est le bâtiment actuellement au sud de la cathédrale. Et le chantier est très bien documenté puisque nous avons beaucoup d'archives, mais aussi les photographies qui maintenant sont un des instruments de la connaissance pour les monuments historiques, et le jeune service utilise beaucoup la photographie. Regardez les cabanes de chantier. La restauration de la nef est finie. Viollet-le-Duc a inventé ces petits M-piéto ici qui n'ont jamais existé sur les contreforts. Il n'a pas encore tout à fait modifié la flèche, la rose, et il n'a pas encore posé la flèche. La voilà, la flèche d'origine du XIIIe siècle, celle qu'il avait promise de refaire devant le jury. Finalement, il a trouvé qu'elle n'était pas assez bien. Et il a dit à Napoléon III que le XIIIe siècle, sans doute, avait failli exceptionnellement, peut-être par faute d'argent, et que donc lui pouvait faire mieux, et donc faire sa flèche, une flèche dont l'échelle est démesurée, dont le poids très important va provoquer une reprise des structures de la cathédrale, car elle est trop lourde pour l'édifice. Et là, Viollet-le-Duc a péché, évidemment, un peu par orgueil. La photographie est prise depuis la cour qui sépare les deux tours que vous apercevez en contre-jour à droite et à gauche. Cette cour imaginée très intelligemment par l'architecte du Moyen-Âge qui a préféré arrêter la charpente avant les tours. C'est ce qui a sauvé la cathédrale, évidemment, le 15 avril. Si la cathédrale avait brûlé jusqu'à la façade inclusivement, les tours auraient brûlé sans être sauvées comme l'ont fait les pompiers par la distance. Et c'est dans cette cour, vous vous souvenez peut-être, que Quasimodo vit dans le roman de Victor Hugo. Alors, la cathédrale devient the place to be. On se photographie devant la cathédrale, dans les nouvelles réalisations de Viollet-le-Duc, dont les célèbres monstres. On ne sait pas s'ils ont existé. Viollet-le-Duc prétend avoir trouvé des traces de griffes sur les rambardes gothiques déchiquetées par la pollution et le temps. Il les a en tout cas refaits d'une manière très brillante, très habile, et il a créé une nouvelle image de Notre-Dame, qui est ce monstre qui se prend la tête dans les mains et qui regarde Paris, comme une espèce de méditation tout à fait fascinante. Il va surtout refaire les décors sculptés, et je vous montre ici une gravure avec ce merveilleux calèche de l'époque. Au XVIIIe siècle, on avait défoncé le centre ici pour faire passer le dais du Saint-Sacrement. C'était l'Église qui avait demandé ce geste vandale qui horrifie Viollet-le-Duc, évidemment. Et donc, Soufflot avait été obligé de faire cela. On va défaire tout ça, on va tout refaire comme on le pensait, en s'inspirant d'autres cathédrales, notamment d'Amiens, bien sûr. Et puis, on va restituer les statues des rois avec, parmi ces rois, la statue de Viollet-le-Duc lui-même, qui s'est donc représenté deux fois à la cathédrale, une fois sur la flèche, une fois sur la façade. Voilà des photographies de l'époque du chantier de Viollet-le-Duc. C'est aussi une époque où on va tout à fait modifier les alentours de la cathédrale, parce que la philosophie de cette époque, ce n'est pas seulement la restauration des monuments dans une sorte d'état purifié archéologique, c'est aussi, vous le savez,
leur dégagement, et Bordeaux en est un exemple célèbre, il faut que les monuments publics soient dégagés sur les quatre côtés. C'est une coupe courte. Et donc, on va abattre progressivement tout ce qui s'approche de la cathédrale. Le vieux quartier, avec, regardez sur cette photographie de Marville, les échafaudages en bois qu'on aperçoit sur le portail à gauche de la cathédrale, qui est sur la droite de la photo. Le magnifique bâtiment du 18e, bah, il a un défaut, il est 18e. Alors, on va l'abattre, n'est-ce pas ? À Bordeaux, on l'aurait gardé religieusement, j'espère, mais pas à Paris. Et donc, on va démolir pour faire un parvis beaucoup plus grand. Parvis qui provoque l'ire de Victor Hugo, car on a beaucoup cité Victor Hugo le 15 avril, mais on a oublié de rappeler qu'il était tout à fait hostile à Viollet-le-Duc et à ses restaurations. Il écrivait que Viollet-le-Duc avait défiguré la cathédrale, que c'était la plus atroce des restaurations qu'il avait faites là, et surtout que la destruction par Haussmann de tout ce qui entourait la cathédrale pour faire un grand parvis était un crime contre Notre-Dame. Victor Hugo aura ce mot merveilleux, « Un jour, on détruira Notre-Dame pour agrandir le parvis de Notre-Dame ». Voilà, toutes ces rues vont disparaître avec leurs maisons. Sur cette photographie, vous voyez, là, il y avait une foule qui a bougé. Le temps de pause était très long, donc elle devient cette espèce de flou au premier plan. Alors, la cathédrale est restaurée, transfigurée par Viollet-le-Duc. Elle devient l'image de Paris, capitale de la nouvelle France impériale, de la ville lumière, de la ville des expositions universelles. Et puis arrive la séparation des églises et de l'État. La République n'a plus grand-chose à dire à Notre-Dame et Notre-Dame n'a plus grand-chose à dire à la République, peut-être, au moment des grands conflits religieux et politiques de la fin du 19e et du début du 20e. Cependant, ce sont nos adversaires allemands qui nous rappellent l'importance de Notre-Dame lorsqu'en 1918, le 29 mars, le vendredi saint, 29 mars 1918, un canon qui est la petite sœur ou la grande sœur de la grosse Bertha tire depuis la forêt de Compiègne, un obus énorme destiné à détruire la cathédrale de Paris. Cet obus, il nous dit que pour les Allemands, il est important de briser le moral des Français et que de même que la cathédrale de Reims a été le symbole de l'offensive de 14 et cet incendie de la cathédrale de Reims, une tragédie nationale dont les Alliés vont se servir pour montrer que les Allemands sont des barbares, les fameux Boches qui apparaissent dans la littérature à ce moment-là, de même, les Allemands tirent un énorme coup sur Notre-Dame et c'est un jour qui est choisi exprès parce que la cathédrale est pleine le vendredi saint, donc l'espoir c'est de tuer des civils et de faire effondrer la cathédrale de Paris. Heureusement, si j'ose dire, parce qu'il y a quand même eu des morts et des dégâts comme vous le montre ce tableau, le coup était trop court et l'obus est tombé à 200 mètres de la cathédrale. Pas si mal pour l'époque, 200 mètres d'erreur et cette édifice qui est devant vous, c'est l'église Saint-Gervais qui est derrière l'hôtel de ville. 100 personnes sont mortes avec l'effondrement des voûtes. Et l'édifice a été donc martyrisé et plus tard restauré. Mais il y a encore aujourd'hui un grand monument à la mémoire des pauvres personnes qui sont mortes ce jour-là. Donc, pour les Allemands, Notre-Dame est bien un symbole, le symbole de la France. Et en 1918, ils nous le rappellent d'une manière presque cruelle. C'est aussi un symbole pour le général de Gaulle, élevé dans une culture monarchiste et catholique, puisque c'est là qu'il se précipite pour le tédéum de la victoire contre la barbarie nazie en 1944 lors de la libération de Paris, libération qu'un autre monarchiste bien connu, le maréchal Leclerc, a pris soin de faire opérer le 25 août, jour de la Saint-Louis, bien sûr, par sa célèbre entrée par la porte d'Orléans. Ils sont là tous les deux, Leclerc, qui restera monarchiste, et de Gaulle, qui était, vous le savez, selon sa formule, républicain de raison, monarchiste de regret, devant la cathédrale de Paris. Évidemment, face à la résistance communiste, face aux Américains protestants, le vieux connétable, le grand connétable catholique ne peut pas imaginer qu'on ne fête pas à Notre-Dame ce qu'on avait toujours fêté à l'époque de la monarchie, les grandes victoires militaires dans la cathédrale. Et Notre-Dame revient ainsi dans le jeu symbolique de l'histoire politique contemporaine, et elle, avec les relations apaisées entre l'État et l'Église, elle sera évidemment la cathédrale des grandes obsèques des chefs d'État jusqu'à François Mitterrand inclusivement. Bon, alors je ne pouvais pas évidemment ne pas évoquer, pour finir rapidement, le drame qui nous a frappés et qui est aussi une façon de parler de Notre-Dame et de la France, puisque la politique s'en est mêlée pour le meilleur et sans doute malheureusement aussi pour le pire. Dans l'instant, l'enquête n'est pas totalement sûre. Il y a deux pistes, celle de, évidemment du terrorisme ayant été écartée définitivement. Il en reste deux, un accident électrique lié à la mauvaise tenue des réseaux électriques de la cathédrale. Quand on connaît l'entretien des monuments français, ce n'est pas tout à fait impossible de croire à ça. Deuxième hypothèse, le chantier qui était en cours de restauration de la flèche de Viollet-le-Duc, qui a provoqué, comme tous les chantiers, l'introduction d'un corps nouveau dans la cathédrale, des allées-venues, des ouvriers, des horaires, etc. Et vous voyez ici la dépose des statues qui ont été d'abord décapitées parce qu'on ne pouvait pas les démonter autrement qu'en les décapitant, quel étrange symbole, qui sont déposées quelques jours avant l'incendie, c'est-à-dire le jeudi précédent l'incendie. La charpente, la chose la plus protégée dans l'archéologie française, puisqu'on ne visite plus ces charpentes depuis l'incendie de la charpente de la cathédrale de Nantes en 1972. Toutes ces charpentes, dont il reste quelques exemplaires vraiment très bien conservés, sont normalement les mieux surveillées et les mieux sécurisées. On a vu ce qu'il en était réellement, évidemment. Mais enfin, voilà. Et ça, c'est la charpente de Notre-Dame. Ce sont des photos que j'ai trouvées sur Internet, mais j'ai eu la chance de la voir à peu près 5 fois dans ma vie, et c'est un souvenir évidemment que je garde précieusement enfoui, et en regrettant qu'on ne puisse plus la voir évidemment, et que les générations suivantes n'aient pas la même émotion devant cet endroit, ce clair-obscur incroyable de cette forêt de chênes, et puis cette odeur âcre de bois et de poussière qui vous saisissait quand vous montiez dans cette charpente. L'incendie s'est déclaré très tôt, à 18h20, à la suite d'une séquence de catastrophes qui ressemble un peu à l'enchaînement de celles qui ont conduit à ce que le Titanic coule. Tout a été fait pour que la cathédrale ne soit pas sauvée. En réalité, la mauvaise alarme, la mauvaise personne mal formée, les pompiers arrivant à un mauvais moment, pas équipés comme il fallait, etc. Donc le feu, c'est quelques minutes, hein. Après on peut discuter, mais c'est fini, et donc le feu va s'installer et va dévorer complètement la charpente du XIIIe siècle et dans sa partie XIXe évidemment, avec la flèche, des images spectaculaires que le monde entier a pu voir, évidemment, et qui a provoqué une énorme fumée, des cendres sur tout le quartier, et la nef qui brûle jusqu'au tour, avant que des flamèches ne mettent en danger la tour nord, dont vous apercevez la fumée noirâtre. Voilà. La flèche, symbole de Notre-Dame moderne, celle de Viollet-le-Duc, a servi de colonne d'aération et elle a pris feu évidemment immédiatement. Elle s'est consumée et brisée vers 20h, une image aussi qui a fait le tour du monde. Un brasier tout à fait étonnant que les pompiers n'ont pu maîtriser en fait que dans un deuxième temps parce qu'ils n'avaient pas d'engin articulé pour lancer l'eau au-delà de 40 mètres. Il faut savoir que ces engins n'existent pas partout et Paris s'en était débarrassé. Elle en avait un jusqu'en 2018 et on l'avait mis à la casse. Donc ce sont deux engins qui sont venus de Versailles, mais il a fallu le temps de venir de Versailles à Paris, et donc il y a eu là encore du temps de perdu. Et dans la nuit, le feu se calme, il reste l'échafaudage qui avait été fait pour la restauration de la flèche, vous voyez, qui a cuit littéralement. Et malheureusement, le carré du transept, qui était la partie la plus fragile, s'est effondré. Elle s'est effondrée en détruisant heureusement seulement des chaises et... si vous êtes sensible à l'art de Vatican II, le maître-autel contemporain qui datait des années 90. Alors stupéfaction, bien sûr, stupéfaction des chrétiens qui prient devant l'édifice, stupéfaction des touristes qui en profitent pour faire des photos, parce que bon, c'est quand même intéressant, évidemment. Stupéfaction des monuments historiques qui se précipitent dans l'édifice et qui, faute de mieux, puisqu'on ne peut rien faire et que la voûte sert de coupe-feu, commence à évacuer le plus de choses possibles qui sont transportables à main d'homme, les pièces du trésor, et là aussi, nouvelle image improbable après les larmes de Jean-Luc Mélenchon, Madame Hidalgo faisant la genuflexion devant la couronne d'épines, qui a été transportée dans le coffre-fort de son bureau à l'hôtel de ville. Là, je dois dire qu'on aura vécu assez pour voir ces images, et il faut peut-être s'en réjouir, ça fait partie des miracles de Notre-Dame. Les héros de cette affaire sont les pompiers, les pompiers de Paris qui seront médaillés, reçus à l'Élysée et qui ont publié récemment un ouvrage que je ne vous recommande peut-être pas complètement parce qu'il réécrit tellement l'histoire de manière héroïque qu'on a l'impression qu'au fond, le drame de Notre-Dame, c'est une chose formidable. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Voilà, alors, après arrive une deuxième catastrophe. Donc après l'incendie, c'est le président de la République. Alors, ça, c'est Monseigneur au Petit, notre archevêque. Ça, c'est le président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est Madame Hidalgo, qui n'est pas encore en genuflexion. Ça, c'est le ministre de la Culture qui découvre Notre-Dame, donc il est ému. Et ça, c'est le Premier ministre. Alors, le volontarisme politique, c'est bien. Et peut-être que le président de la République, dans une monarchie républicaine, c'est ce qu'on attend de lui, qui donne une direction. Mais il va prononcer des paroles compliquées. D'abord, il va dire qu'elle doit être reconstruite en 5 ans, un délai qui correspond au JO de 2024. On ne voit pas très bien le rapport entre les deux événements. Ensuite, il va parler d'une reconstruction plus belle. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la beauté est plus belle que quoi? Plus belle que Viollet-le-Duc? Plus belle que le XIIIe siècle? C'est pas très clair. Plus belle que Louis XIV? On ne sait pas très bien. Et puis enfin, il va parler d'une flèche contemporaine en affirmant qu'il n'y avait jamais eu de flèche avant Viollet-le-Duc. Ça, c'est la fiche Wikipédia du collaborateur qui a mal regardé les photos. Hein. Voilà. Et puis surtout, il va annoncer qu'il veut nommer un chef charismatique, de préférence catholique, et qui aura exercé de hautes fonctions dans l'État sans contestation possible. Je veux dire par là, sans avoir oublié de déclarer ses impôts, d'avoir engagé son épouse, etc. Et donc il va choisir le général Georges Lin, qui est un général d'armée, 5 étoiles, ancien chef d'état-major des armées, grand chancelier de la Légion d'honneur, dans cette photographie où il pose, et puis retraité depuis 2 ans. Donc il va devenir le préfigurateur d'un établissement public créé tout exprès pour restaurer Notre-Dame, avec une loi qui est votée et en express au début de l'été. Loi mystérieuse, puisque tout existait déjà pour faire la restauration et qu'on utilise normalement les procédures classiques du ministère de la Culture et du service des monuments historiques. Alors ça fait beaucoup de très belles images, évidemment. La presse mondiale s'en est emparée. Voilà le hors-série de l'histoire, le très beau titre du Parisien. Et puis... dans un esprit plus piquant, évidemment, le côté gourou du président de la République, qui apparaît sur cette photomontage assez drôle, je dois dire, dans la revue très malpensante qui s'appelle Causeur, d'Elisabeth Lévy et Alain Finkielkraut. Alors, la flèche contemporaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, évidemment, une couillonnade. Et une couillonnade médiatique qui prend aussi rapidement que l'incendie, puisqu'une fois que le président de la République a dit qu'on va faire une flèche contemporaine, le moindre architecte le plus nul peut imaginer passer à la postérité. C'est le fameux quart d'heure dont Warhol parlait dans les années 60. Alors, flèche pour flèche, ça, c'est une sculpture de flèche. Voilà. Une flèche ici en vert et en or. Je ne donne pas les noms des architectes parce que je ne veux pas rentrer dans leur jeu, évidemment. On peut faire un jardin sous une verrière. Alors, ça, c'est Greta Thunberg. Hein. On peut aussi végétaliser. Pas facile à entretenir, mais pourquoi pas. On peut mettre la flèche sur du verre. C'est la flèche ancienne sur du verre moderne. Alors, là, on va vers Disneyland, mais après tout, il y a une espèce de logique. Hein. Bon, c'est la France. Donc, c'est un hommage à l'esprit français. Alors, la baguette, l'éolienne, c'est pas moi, hein, je vous promets que c'est des photos qui existent. Hein. Le célèbre plug anal qui avait été dressé place Vendôme par un artiste contemporain en mal de célébrité, lui aussi. Le genre vitrail, vous voyez, mais avec un peu de d'aspect un peu contemporain. Et on remet les statues quand même. Bon. Là, ça ressemble un peu à Abu Dhabi. Enfin, bon. Ou alors la piscine découverte. Voilà. Ça peut être sympathique de se baigner à Notre-Dame. Bon, je ne sais pas ce que l'évêque pense de cette image. Bon. Évidemment, il y a aussi l'aspect des mécènes qui vont donner beaucoup d'argent et qui se font à la fois très beaux gestes et en même temps une publicité mondiale gratuite. Donc, voilà, vous pouvez les lire vous-même. Voilà, bon, c'est un peu sans fin, hein, pour vous dire les choses. Hein. Pas raisonnable de parler de ça tout de suite le lendemain de l'incendie. Hein. Il aurait mieux valu laisser un petit peu de temps au temps, comme disait M. Mitterrand en citant un grand auteur espagnol. Alors la réalité, c'est ça. C'est l'échafaudage, le monstrueux échafaudage de 500 tonnes qui pendouille sur la cathédrale depuis l'incendie et qui avait été dressé par les monuments historiques pour la restauration qui a abouti à la destruction. C'est un échafaudage problématique parce qu'il est en équilibre et comme il a cuit le jour de l'incendie, on ne peut pas le démonter. Et donc, il faut le cisailler et sortir les pièces, qui va représenter un travail évidemment tout à fait colossal. Il faut aussi évacuer tous les gravats qui pèsent encore sur les voûtes, parce que normalement, les charpentes s'appuient sur les murs et non pas sur la voûte, et donc ce sont des voûtes minces qui souffrent évidemment dans leur statique. On a fait donc un travail parallèle au bavardage politique qui a conduit à tant de choses désagréables. On a fait un travail, je dis un honte majesté, hein, exclusif du jeu, c'est le service des monuments historiques, un travail très important de protection, de couverture provisoire, de bâchage, de renfort, de patelage. Et tout ça, on vient de l'apprendre, a coûté déjà 85 millions d'euros. C'est donc pour l'instant un des premiers prix qu'on connaisse dans cet extraordinaire chantier qui est devant nous. La consolidation, le frettage, c'est le nom qu'on donne à ces pièces de bois qu'on a mis pour renforcer. Et évidemment, des photographies qui vous donnent une idée de l'état de l'édifice. Vous voyez les pignons qui ont brûlé à l'extérieur. Donc les pierres sont rubéfiées, donc elles ont brûlé et elles peuvent éclater. Donc il faut faire très attention à les stabiliser. Donc on passe tout sous bâche. On renforce avec des pièces de bois qui sont attachées entre elles, dehors, dedans, pour que les pignons ne se déversent pas dans le vide. On chapeaute de filets les pinacles pour qu'il n'y ait pas de chute de pierre en bas. On dépose tous les vitraux remplacés par des bâches. Ils sont partis en restauration. On construit un plancher provisoire sur lequel on va poser une bâche pour empêcher la pluie de tomber directement sur les reins des voûtes qui sont à découvert. Et demain, on construira une deuxième cathédrale en échafaudage à l'intérieur de laquelle pourront travailler les ouvriers sur l'édifice abîmé. À l'intérieur, des images saisissantes, qui sont des images d'autant plus saisissantes que, si vous connaissez l'histoire du patrimoine, elles sont évidemment bouleversantes parce qu'elles nous rappellent la guerre de 14 et toutes les églises déchiquetées sur le front de l'Est et du Nord. Mais elles nous rappellent aussi, bien sûr, la Révolution française, les tableaux d'Hubert Robert, toutes les églises fracassées par le jacobinisme et l'idéologie de haine de la Révolution française. Et donc ici, vous avez les voûtes crevées de la nef par la chute de la flèche, la voûte crevée, évidemment, du transept qui est tombée. La première voûte, celle-ci, c'est celle qui est tombée à cause de la pointe de la flèche. Et ça, c'est le carré du transept avec une lumière fascinante qui n'a jamais existé, qui baigne Notre-Dame. Voilà des photos. On pourrait croire que c'est Reims en 1914 en couleur. On a vu en couleur Reims devant nous le 15 avril. Avec tous ces gravats, mais miracle, les statues de Louis XIV, de Louis XIII, la Pietà, les stalles, tout est intact dans le chœur. Ici seulement le maître-autel de Vatican II pulvérisé, aplati, et il fait 1 cm d'épaisseur. Voilà. Il avait été fait pour Monseigneur Lustiger. Voilà, des vues très intéressantes aussi, parce que le drame, c'est que pour les archéologues, c'est un grand moment, cet incendie. D'abord parce qu'on voit comment ça brûle, on voit comment fonctionne l'incendie, on voit comment résiste la cathédrale, et puis on voit comment sont les épaisseurs des voûtes. Là, on sait maintenant exactement 25 cm des pierres qui sont tombées de la couche, qui rappelle donc la théorie de la voûte mince, hein, qui est en fait une voûte coupe-feu, plus qu'une voûte en structure. Voilà ces détails. Voilà l'échafaudage qui pend au-dessus. Tout ça, c'est des photos qui sont partiellement des photos d'êtres humains, mais beaucoup sont des photos prises par les robots. Car dans une partie de la cathédrale, pendant longtemps, personne n'a été sinon des petits robots qui ramassaient les pièces pour ne pas mettre en danger la vie des êtres humains, parce qu'il y avait des problèmes de stabilité très forts. Voilà les morceaux de bois calciné de notre pauvre charpente du XIIIe siècle. Voilà le maître-autel avec l'emmarchement au Vatican II. J'aime beaucoup cette image avec la statue de Saint Jérôme, qui est une statue de Slots du XVIIIe qui a survécu, à côté d'un grand tableau qui a été longtemps en place parce qu'on ne pouvait pas envoyer quelqu'un le décrocher dans le transept, c'était trop dangereux, vous voyez, avec des chutes de pierre très importantes dans le transept nord. Et puis cette image, vous voyez, avec la tête de Louis XIII qui a l'air d'avoir été détruite, parce qu'en fait il y a une lampe là, et on a l'impression que la tête a sauté. Le monde entier a réagi à cette photo, hein. C'est tout à fait fascinant, la chance que dans notre malheur nous avons eue. Voilà, la statue de Jeanne d'Arc qui est là-bas, patronne de la France, qui a résisté. Et puis des scènes dignes d'un film américain, c'est James Bond là qui, voyez, emmailloté des ouvriers suspendus par des filins qui vont ramasser les différentes pièces au péril quelquefois de leur vie parce que l'édifice n'est pas stable du tout, il est toujours très fragilisé. La volonté du général Georgelin a été de dire qu'il ne fallait pas attendre pour que l'Église perde la maîtrise de l'édifice. C'était un enjeu majeur. Et donc, il a insisté pour la fameuse messe au casque. C'est son nom. La messe en casque qui a été faite par l'archevêque, Monseigneur au Petit, qui est officie ici. C'est le général Georgelin lui-même qui lisait l'évangile au moment de la deuxième lecture. Et cette messe a eu lieu tout de suite après l'incendie pour montrer que l'Église comme institution, était toujours évidemment chez elle et que, parce qu'il y a eu évidemment tout de suite des gens qui ont dit au fond, est-ce que cette cathédrale n'a pas plutôt vocation à être un lieu touristique et on pourrait peut-être éventuellement donner une chapelle latérale aux catholiques qui restent encore dans ce pays. Et donc il y a eu une espèce d'enjeu sans être totalement avoué qui est intéressant à suivre évidemment. Alors ça c'est la visite des monuments historiques. Ça, c'est l'architecte en chef qui est responsable de l'incendie, mais qui est resté en poste, parce que vous savez qu'en France, en général, il n'y a jamais de coupable. Hein. Donc, il est toujours l'architecte de Notre-Dame après le désastre provoqué au mois d'avril. Ça, c'est le directeur du patrimoine et ça, c'est le ministre de la Culture. C'est la dernière image. Cette grue qui a été montée à Noël, 84 mètres de haut, une grue gigantesque qui est faite pour déposer l'échafaudage. Ce fameux échafaudage, tant qu'il est là, il y a une menace sur la cathédrale. Quand il sera enlevé, on pourra achever les opérations de protection, terminer le nettoyage complet de l'intérieur et enfin penser, à partir de l'année prochaine vraisemblablement, à la question de la reconstruction qui a déchaîné les passions le 16 avril alors que c'était beaucoup trop tôt. Il aurait fallu un peu d'humilité, mais ça aussi c'est intéressant et c'est peut-être en forme de conclusion ce que ça dit de la France d'aujourd'hui. Je vous remercie.